Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 9, esclavage sans soumission, émancipation sans liberté. Sixième partie. Le socio-anthropologue George Rawick décrit l'évolution de la situation des Noirs pendant la guerre de sécession. Les esclaves passèrent de la résignation d'êtres humains vivant dans la terreur, jetés au milieu d'hommes étranges, dont leurs propres congénères qu'ils ne connaissent pas forcément et dont ils ne partageaient ni la langue ni les us et coutumes, à ce que W.E.B. Du Bois décrivait autrefois comme une sorte de révolte générale au cours de laquelle des centaines d'esclaves désertèrent les plantations, empêchant de ce fait le Sud de subvenir aux besoins de son armée. Les femmes noires jouèrent un rôle essentiel dans cette guerre, en particulier vers la fin. Sojourner Truth, la légendaire ex-esclave qui avait participé activement au mouvement pour les droits des femmes, se fit recruteuse de soldats noirs pour l'armée de l'Union, à l'instar de Joséphine Saint-Pierre Ruffin de Boston. Harriet Tubman attaqua des plantations à la tête de troupes composées de blancs et de noirs, et, en une seule expédition, libéra 750 esclaves. Les femmes se déplaçaient avec les régiments de couleur dont les effectifs allaient croissant à mesure que l'armée de l'Union pénétrait dans le sud. Elles soutenaient leurs maris, endurant de terribles difficultés pendant les longs déplacements militaires au cours desquels de nombreux enfants moururent. On a parfois prétendu démontrer que les esclaves noirs acceptaient leur esclavage en arguant du fait que, pendant la guerre de sécession, nombre d'entre eux, au lieu de s'évader lorsqu'ils en avaient l'opportunité, choisissaient de rester sur les plantations. En vérité, c'est un demi-million d'esclaves qui prirent la fuite. Un sur cinq à peu près. Chiffre relativement élevé si l'on considère qu'ils ne savaient ni où aller, ni comment survivre. Le propriétaire d'une vaste plantation s'étendant sur la Caroline du Sud et la Géorgie se plaignit, en 1862, que « cette guerre ait démontré qu'il était parfaitement impossible de faire confiance aux nègres. Dans un nombre incalculable de cas, ceux que nous estimions le plus ont été les premiers à nous abandonner. » La même année, un lieutenant de l'armée confédérée, par ailleurs maire de Savannah en Géorgie, regrettait lui aussi sincèrement d'apprendre que les nègres continuent de déserter pour rejoindre l'ennemi. On trouve également, en janvier 1865, dans le journal tenu par une propriétaire de plantation, les renseignements suivants. Les gens sont tous paresseux sur la plantation. La plupart ne recherchent plus que leur propre plaisir. Certains serviteurs se sont révélés fidèles, et d'autres faux et rétifs à toute autorité ou contrainte. Ils vivent dans la plus parfaite anarchie et dans un esprit de révolte constant. Ils manifestent la plus profonde animosité envers leur maître, ainsi que contre toute gouvernance ou surveillance. Presque tous les domestiques de la maisonnée ont quitté leur foyer, et dans la plupart des plantations, ils sont partis, comme un seul homme. En 1865 encore, un planteur de Caroline du Sud s'exprimait ainsi dans les colonnes de la Tribune de New York. L'attitude des nègres lors de la dernière crise qu'ont connue nos affaires m'a convaincu que nous vivions depuis toujours dans l'illusion. Je croyais que ces gens étaient satisfaits et heureux et qu'ils s'étaient attachés à leur maître. Mais les événements ainsi que ma propre réflexion m'ont amené à changer d'opinion à leur sujet. S'ils étaient si satisfaits, si heureux et si dévoués à leur maître, pourquoi les ont-ils désertés au moment où ils avaient le plus besoin d'eux pour rejoindre massivement un ennemi qu'ils ne connaissaient pas, abandonnant ainsi un maître sans doute réellement bon qu'ils connaissaient depuis leur plus tendre enfance. Genovese remarque que la guerre ne provoqua pas de soulèvement général des esclaves, mais, dans le comté de Lafayette, dans le Mississippi, les esclaves réagirent à la proclamation d'émancipation en se débarrassant de leurs surveillants et en se partageant les terres et le matériel. Aptheker fait état d'une conspiration de Noirs dans l'Arkansas en 1861 qui avait pour objectif d'assassiner les maîtres. Dans le Kentucky, la même année, des maisons et des étables furent brûlées par les Noirs. Selon ce que rapportent les journaux de Newcastle, les esclaves défilèrent dans les rues en entonnant des chants politiques et en acclamant Lincoln. Après la proclamation d'émancipation, un serviteur noir de Richmond fut accusé d'avoir dirigé une conspiration d'esclaves, tandis qu'à Yazoo City, dans le Mississippi, les esclaves incendièrent le tribunal et 14 maisons. Il y eut également des événements plus audacieux. Robert Smalls, qui devint plus tard membre du Congrès pour la Caroline du Sud, s'empara, avec d'autres Noirs, d'un navire nommé le Planteur et lui fit passer les lignes confédérées pour le remettre à la marine nordiste. Mais, de manière générale, les esclaves ne se soumettaient pas plus qu'ils ne se rebellaient. Ils continuaient simplement à travailler en attendant de voir comment tout cela tournerait. Lorsque l'opportunité s'en présentait, ils s'enfuyaient, le plus souvent pour rejoindre l'armée de l'Union. 200 000 Noirs étaient dans l'armée du Nord ou dans la marine, 38 000 furent tués au combat. L'historien James McPherson affirme que, sans leur aide, le Nord n'aurait pas pu gagner la guerre aussi tôt et peut-être même ne l'aurait-il pas gagné du tout. Ce qu'il advenait des Noirs dans l'armée et dans les villes du Nord pendant la guerre permet de se faire une idée du caractère limité qu'aurait l'émancipation après la victoire totale sur la Confédération sudiste. En permission, les soldats noirs étaient souvent agressés dans les villes du Nord. On confiait aux soldats noirs les travaux les plus durs et les moins ragoûtants. Creuser des tranchées, tracter les canons ou les troncs d'arbres, charger des munitions, creuser les puits pour les régiments blancs. Les simples soldats blancs recevaient une solde mensuelle de 13 dollars, les soldats noirs de 10 dollars seulement. Vers la fin de l'année 1864, un sergent noir du 3e régiment de volontaires de Caroline du Sud, William Walker, fit charger sa compagnie jusqu'à la tente du capitaine pour déposer les armes et démissionner de l'armée en signe de protestation contre ce qu'il considérait comme une rupture de contrat, c'est-à-dire l'inégalité de la solde. Il passa en cour martiale et fut fusillé pour mutinerie. Finalement, en 1864 toujours, le Congrès vota une loi accordant l'égalité de traitement aux soldats noirs. La Confédération sudiste était dans une situation désespérée pendant la dernière partie de la guerre, et certains de ses dirigeants suggérèrent que les esclaves, qui représentaient de plus en plus un obstacle pour la cause sudiste, fussent engagés et libérés à la fin de leur service. Après une série de défaites militaires, le secrétaire à la guerre de la Confédération, Judah Benjamin, écrivit en 1864 à un journaliste de Charleston. Il est de notoriété publique que le général Lee, qui inspire tant de confiance à la population, est tout à fait favorable à ce qu'on enrôle les Noirs dans l'effort de défense et à ce qu'on les émancipe, si nécessaire, à cette intention. Un général indigné réagit à ces propos. Si les esclaves se révèlent être de bons soldats, alors c'est toutes nos théories esclavagistes qui sont erronées. D'anciens esclaves interviewés dans le cadre du Federal Writers Project dans les années 1930 évoquaient l'issue de la guerre. Susie Mellon, par exemple. J'étais toute jeune fille, à peu près 10 ans, et on a entendu que Lincoln allait libérer les Noirs. Le vieux maître, il disait que c'était pas vrai. Alors un soldat Yankee a dit à quelqu'un, à Williamsburg, que Lincoln, il avait signé l'émancipation. C'était l'hiver et il faisait sacrément froid ce soir-là. Mais tout le monde a commencé à se préparer pour partir. On n'en avait plus rien à faire de monsieur. On rejoignait le côté de l'Union. Toute la nuit, les Noirs, ils ont dansé et chanté dans le froid du dehors. Le lendemain, à l'aube, on est tous sortis avec nos couvertures, nos vêtements, nos casseroles, nos poêles et nos poulets sur le dos. Parce que monsieur l'avait dit qu'on pouvait pas prendre ni les chevaux, ni les charrettes. Et au moment où le soleil est monté au-dessus des arbres, les Noirs, ils ont commencé à chanter. Soleil, toi t'es là et moi je m'en vais. Bye bye et t'en fais pas pour moi. Je donnerai pas ma place pour la tienne. Bye bye et t'en fais pas pour moi parce que tu restes et moi je m'en vais. Le Federal Writers Project a aussi enregistré les témoignages d'une ancienne esclave nommée Fanny Berry. Les nègres qui criaient, qui frappaient dans leurs mains et qui chantaient. Tout le monde qui courait de partout en marquant le rythme et en criant. Tout le monde heureux, sûr, c'était la fête. J'ai couru à la cuisine et j'ai crié par la fenêtre. « Maman, arrête de faire la cuisine, tu es libre, tu es libre !» Beaucoup de Noirs comprirent assez rapidement que leur statut après la guerre, quelle que soit leur situation juridique, dépendrait surtout d'une chose. Soit ils posséderaient la terre qu'ils travailleraient, soit ils allaient devoir travailler comme des demi-esclaves pour les autres. En 1863, un Noir de Caroline du Nord écrivait: si le principe strict du droit et de la justice devait être appliqué, le pays qui m'entoure est l'héritage inaliénable des Américains d'origine africaine, acquis par l'inestimable travail de nos ancêtres et par une vie de larmes et de souffrances sous le fouet et le joug de la tyrannie. Néanmoins, les plantations abandonnées furent louées à leurs anciens propriétaires et aux blancs venus du Nord. Comme un journal noir l'affirmait, les esclaves ont été maintenus en servitude et enchaînés à la terre. Voilà la prétendue liberté offerte à l'homme de couleur par les Yankees. Certains propriétaires furent expropriés pour des raisons fiscales et leurs terres vendues aux enchères. Mais seuls quelques Noirs pouvaient se permettre de les acheter. Dans les Sea Islands de Caroline du Sud, environ 6400 hectares de terre furent mis en vente en mars 1863. Des affranchis, qui avaient mis leur argent en commun, purent en acquérir 800 hectares. Mais le reste fut acheté par des investisseurs et des spéculateurs venus du Nord. En 1863, un affranchi des Sea Islands dicta une lettre qu'il envoya à un de ses anciens professeurs installés à Philadelphie. Mon cher monsieur Young, dites, mon monsieur, à Lincoln, qu'on veut de la terre. De cette terre qui est riche de notre sueur, de notre front et du sang de notre dos. On pourrait acheter ce qu'on veut, mais ils font les lots trop gros. Et les autres, ils passent devant. C'est Monsieur Lincoln lui-même qui l'a dit. Qu'on dise ce qu'on veut et qu'on les prenne et qu'on s'installe et qu'ils s'arrangeraient pour qu'on les ait, chaque homme, c'est 10 ou 20 acres. On était contents aussi. Alors on s'est inscrit, mais au moment de s'installer, ces délégués, ils vendent toute la meilleure terre à leurs copains blancs. Qu'est-ce qu'il fait, Lincoln ? Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.